Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, c'est une joie pour moi d'être là ce matin avec vous pour écouter la parole de notre Dieu et pour le louer également. Et je dis c'est une joie pour moi, mais je devrais dire c'est une joie pour nous parce que je ne suis pas seul ce matin. Mon épouse est au fond dans la salle avec notre petit garçon de 13 mois, Nathan. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, verset 1, et Genèse chapitre 13, les 18 premiers versets. Genèse chapitre 12, le premier verset, et Genèse 13, les 18 premiers. Je lis dans la version du Semeur. L'Éternel dit à Abraham : Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Le chapitre d'après. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction de Néguev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Bethel, au lieu du Néguev jusqu'à Bethel, où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Et de plus, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Alors les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Abraham dit à Lot : Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Ce passage nous présente deux principaux personnages. D'un côté, Abraham, et de l'autre, Lot, le premier étant l'oncle du second. Lorsqu'Abraham obéit à l'ordre de Dieu, celui de quitter son pays ainsi que sa parenté, Lot est parmi ceux qui font le choix de suivre Abraham. Donc, quelque part, Lot accepte de mettre sa confiance dans le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham qui est le nôtre aussi. Donc, quelque part, Lot place sa confiance en ce Dieu. Que ce Dieu puisse être réellement le nôtre. Une telle décision de suivre Abraham de la part de Lot est louable et courageuse. Lot avait bien commencé sa carrière avec l'Éternel, mais il va vite se rendre compte que ses choix ne lui permettront pas de bien suivre l'Éternel comme il se doit. Ces deux hommes investissent de manière différente, ce qui aura bien entendu des conséquences distinctes. Investir dans le vice, premier type d'investissement. Investir dans les choses qui ne comptent pas, voilà le choix inconséquent de Lot. Face à l'insuffisance des terres, Lot et Abraham sont dans l'obligation de se séparer. Les tensions causées par l'exiguïté sont déjà manifestes entre les serviteurs des deux personnages. Notons que l'histoire nous apprend que très souvent, les guerres civiles naissent en partie à cause de la rareté des terres. Dans un passé récent, le monde a été spectateur d'un génocide au Rwanda. Génocide en partie expliqué par la rareté des terres. Le Zimbabwe, un pays en Afrique également, n'est pas en reste. Ce pays, jadis décrit comme le grenier de l'Afrique, a vu son activité agricole baisser depuis que les descendants d'Européens ont été chassés de leurs terres qu'ils détenaient de leurs parents depuis plus de deux siècles. Il est vrai que les descendants d'Européens avaient la quasi-totalité des terres cultivables et du coup ce qui pouvait léser le reste de la population dite noire. Ce qui a conduit à une crise majeure il y a quelques années dans ce pays. Fort de la sagesse qui le caractérise, Abraham propose à son neveu la séparation des deux clans dans le but d'éviter que le conflit qui oppose leurs serviteurs respectifs n'empire. Dans une telle société, il faut savoir que l'oncle avait la préséance. En toute logique, c'est Abraham qui aurait dû, en premier, faire le choix de la région où il souhaiterait s'établir. Au lieu de cela, il donne à son neveu la primeur de faire le choix. Abraham ne met pas en avant son droit. L'apôtre Paul, dans certaines circonstances, a renoncé aussi à ses droits. Et il va plus loin en disant aux Éphésiens, « Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Voilà la condition qu'est celle d'Abraham vis-à-vis de son neveu. Qu'est-ce qui va déterminer la grave décision que s'apprête à prendre Lot? Ce dernier est influencé par les apparences. Son choix est déterminé par ce qui frappe à la vue. Lot est attiré par la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Lot est certainement subjugué par ce paysage verdoyant. Mais au-delà du caractère fertile de la terre, posons-nous la question si Lot s'est intéressé à la manière dont vivaient les habitants de ce pays. Je ne sais pas si cela a traversé son esprit. Mais ce que l'on peut constater, c'est que Lot, à ce moment-là, a déjà fait son choix dans son cœur. Et il est en quelque sorte devant un point de non-retour. Car ce qui compte pour lui, c'est cette belle vue, ce côté fertile. En disant cela, je ne suis pas en train de jeter la pierre à Lot. Je ne sais pas si à sa place, j'aurais fait mieux. Cette bifurcation de Lot, oui, il s'agit véritablement d'une bifurcation, nous allons le voir, sera lourde de conséquences. Lot a fait un choix sur ce qui ne dure pas, sur ce qui ne compte pas. Bref, il a investi dans ce qui ne compte pas. On pourrait se dire que Lot pouvait bénéficier des circonstances atténuantes. Il n'avait pas connaissance de ce qui se passait dans cette ville, dans ce pays. Mais on est en droit aussi d'avancer que Lot, dès son installation dans cette ville de Sodome, s'est bien rendu compte du style de vie qui avait cours dans ce pays. Un genre de vie qui était loin, mais alors loin, de glorifier notre Dieu. Les habitants de Sodome vivaient dans une perversité énorme, dira l'Éternel, Genèse 18, 20. Le choix de Lot est influencé par ce qui brille, et par la suite, ce qui importera pour lui, ça sera la réussite de ses affaires, sa réussite matérielle. Peut-être qu'à cause de ses affaires, il ne pourra plus faire demi-tour. Il ne pourra plus partir de cette ville, de son propre chef. Le choix de Lot est déterminé par ce qui brille. Lot était plutôt sobre ou plutôt bling-bling. Et nous, qu'est-ce qui détermine notre choix? Qu'est-ce qui détermine nos décisions? Investir dans les vertus, deuxième type d'investissement. L'attitude d'Abraham vis-à-vis de son neveu est une manifestation d'amour. Abraham considère d'abord les intérêts de son neveu. Et par la suite, on voit comment Abraham vient au secours de ce neveu lorsque celui-ci est fait prisonnier par les ennemis de Sodome. Genèse 14. Cet amour est manifeste aussi lorsque Abraham intercède pour Sodome. Oui, Abraham avait compris que dans sa relation avec Dieu, ce qui était le plus important, c'était l'amour. Et le message de la Bible, c'est justement cet amour. C'est l'amour qui est au centre de ce message de la Bible. S'il n'y a pas l'amour, notre relation avec Dieu souffrira. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un frère que j'avais du mal à aimer. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Et cela a duré pendant des mois et des mois. Et j'en ai fait mon sujet de prière avec mon épouse. Toutes les fois que je voyais le frère, j'étais en souffrance. Et quand je quittais la personne, j'étais en souffrance. Et nous avons prié pour cela pendant des mois. Et pendant que j'avais toujours ce sentiment, je disais au Seigneur, mais ce n'est pas un sentiment qui vient de toi. Donne-moi d'aimer ce frère. Et voilà, donc on a poursuivi la prière. Et à côté de la prière, je me suis mis à faire aussi des actes d'amour, des gestes d'amour. Par exemple, inviter le frère chez nous pour voilà, partager le repas. Alors, rassurez-vous, le jour où je vous inviterai, ne vous dites pas que nous sommes en bisbille, loin de là. Non, mais voilà. Et quelques temps après, ce sentiment qui ne venait pas du Seigneur est parti. L'amour est au centre de notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre prochain. En refusant la discorde au sein de sa famille, Abraham prouve qu'il est pour la quiétude, pour la paix. Abraham rejette les querelles, les disputes entre membres d'une même famille. Dès lors qu'il constate la mésentente entre ses serviteurs et ceux de Lot, Abraham propose la séparation dans le but de conserver des bonnes relations entre lui et son neveu. En cela, nous voyons que le patriarche est un partisan de la paix. Abraham investit dans la paix. Dans le cas d'espèce, l'instauration de cette paix a un prix, la séparation. Mais qu'y a-t-il d'étonnant lorsque nous savons que nous aussi, si nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes en réconciliation avec Dieu, c'est parce qu'il y a eu un prix. Le prix, le fort prix payé par Christ à la croix, le sang de Christ. Sommes-nous de ceux qui sont pour la paix autour de nous, dans nos familles biologiques, dans la famille en Christ, dans le milieu professionnel. Où sommes-nous des diviseurs ? Remarquant qu'en suggérant la séparation, l'intention d'Abraham est loin d'être la division, mais l'objectif qu'il veut atteindre est le maintien de la parenté. Dans la gestion de cette crise entre les partisans de Lot et ceux d'Abraham, ce dernier fait montre de sagesse. Pour juguler cette crise, Abraham manifeste de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur et de la maîtrise de soi, une sorte de fruit de l'esprit avant l'heure. Comment gérons-nous nos différends ? Abraham investit dans les choses qui comptent, son choix est conséquent. On peut supposer qu'Abraham se fie davantage à l'Éternel pour le choix de la région où il s'apprête à aller. Oui, il se fie davantage à l'Éternel qu'à son propre jugement. La preuve est qu'il laisse son neveu faire le choix en premier, passant ainsi outre la coutume du droit d'aînesse. Abraham place sa foi en Dieu. En qui est-ce que je me confie lorsque je dois faire tel choix ou tel autre ? Et ce, quel que soit le domaine de ma vie. Est-ce que je me soumets en Jésus dans chaque affaire courante me concernant, par exemple, la formation, la profession, l'argent, les biens, et j'en passe. Retombées de chaque investissement. Le choix du pays semble être un détail, mais très vite Lot se rendra compte des lourdes conséquences que cela entraînera. En revanche, Abraham pourra apprécier les conséquences positives de son choix, qui est en réalité un choix divin. Nous pouvons lire au psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » La Bible ne nous dit pas que Lot vit dans la débauche, loin de là, bien au contraire. On voit comment est-ce qu'il se défend de vivre comme les gens du pays d'accueil. Les Écritures nous apprennent que les habitants de Sodome, ses habitants étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Quant à Lot, il préserve la morale et l'éthique. Surtout, la crainte de Dieu a pris aux côtés de son oncle. Malgré la pression de la mauvaise vie de ses voisins, Lot ne trempe pas dedans. Quel enseignement donnons-nous à nos enfants ? Oui, un jour comme Lot, il faudra bien que nos enfants aillent faire leur propre chemin. Et si par malheur, ils se retrouvent dans un milieu hostile, et qu'ils se souviennent de ce qu'ils auront appris aux côtés de leurs parents, à condition que ceux-ci, comme Abraham, aient appris également du Seigneur. Et là, j'aimerais dire que pour les parents qui auront tout fait pour leurs enfants, ils ont montré le chemin qu'il faut suivre. Et si à côté, les enfants ne suivent pas ce chemin, je crois qu'il y a lieu de ne pas culpabiliser. Je dis souvent dans notre communauté, à l'église de nos gens, pour les parents qui sont en souffrance par rapport à cette question. C'est tout à fait légitime. L'idéal pour tout un chacun, c'est de voir son enfant, ses enfants, suivre cette voie qui est la meilleure. Mais si nous avons fait ce qu'il faut, tout ce qui nous reste à faire, c'est de prier et de laisser le Seigneur faire et de vivre cet amour vis-à-vis de ses enfants, comme le fait Abraham ici. Mais loin de nous, l'idée de culpabiliser parce que nous aurons fait ce qu'il faut. Quelque part, Lot avait encore gardé un soupçon d'amour pour Dieu. Avouant qu'il est fort, il ne va pas céder à la pression, il n'imitera pas ses voisins. Il y a des indices qui nous montrent que Lot a encore en lui cette capacité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Premier indice, lorsque les habitants veulent commettre l'infamie avec les envoyés de Dieu, Lot, sachant que cela n'est pas acceptable, que les hommes aillent avec les hommes, Lot va proposer ses filles. Et jusqu'à proposer justement ses filles à cette meute de chiens en chaleur. Genèse 19, versets 7 à 8. Deuxième indice, contrairement à ses gendres, Lot craint l'Éternel. Il accepte de quitter la ville que Dieu s'apprête à détruire. Troisième indice, contrairement à sa femme, Lot obéit à l'Éternel en ne regardant pas derrière lors de la sortie précipitée de Sodome. Malgré cette vie qui, quelque part, honore Dieu, Lot va subir de lourdes conséquences dues à son choix. Il a choisi le pays de Sodome. Nous savons ce que représentent Sodome et Gomorre dans la Bible. Quel est mon Sodome? Quel est mon Gomorre? Quel est votre Sodome? Quel est votre Gomorre? Lot avait son Sodome qui le conduira à la ruine. Chronique d'une ruine annoncée. Si, comme nous l'avons vu, Lot s'est préservé, il a continué à vivre selon les principes appris aux côtés de son oncle, mais malgré tout cela, n'a pas empêché qu'il paie le lourd tribut quant aux conséquences de son choix. Premier élément de la ruine, Lot est fait prisonnier par les vainqueurs de la guerre contre Sodome et Gomorre. Genèse 14, versets 11 et suivants. Deuxième élément de la ruine, malgré le fait que les affaires de Lot soient prospères, sa famille et lui ne seront pas en paix face aux coutumes de leurs voisins. Troisième élément de la ruine, Lot est réduit à proposer ses filles à la prostitution pour empêcher le viol de ses représentants de Dieu. Nous pouvons lire « J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes. » Bien que l'intention de Lot soit de protéger les anges de Dieu, ce qui est noble de sa part, nous sommes au regret de constater que dans le cœur de Lot, la compromission s'est déjà enracinée. La foi de Lot est peu solide. Il oublie qu'il s'agit des envoyés de Dieu et que celui-ci est capable de les tirer d'affaire. Cette proposition de Lot de voir ses filles se prostituer démontre combien notre homme, tout en étant juste aux yeux de Dieu, s'est accommodé à certains vices des habitants de Sodome. Quatrième élément de la ruine, la destruction partielle de sa famille. En effet, les gendres de Lot refusent de quitter Sodome, probablement qu'ils avaient déjà épousé le mode de vie des habitants de ce pays. Partir de cette ville était une plaisanterie, une folie pour ces gendres. Nous verrons que ce refus aura des retombées graves sur l'attitude des filles de Lot. Noé, en son temps, a averti ses contemporains. Combien prirent au sérieux les propos de Noé? Encore aujourd'hui, vous et moi, nous ne cessons d'avertir nos contemporains, mais combien nous prennent au sérieux? Cinquième élément de la ruine, Lot perd sa femme, cette dernière est transformée en statue de sel. Dieu leur avait bien prévenu de ne pas regarder en arrière lors de leur départ. Personne ne pourra accuser Dieu un jour de ne lui avoir pas dit de suivre tel chemin et pas tel autre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Par ailleurs, Dieu dira, on peut lire en Luc 16, 29, les écrits de Moïse et des prophètes étaient là pour vous avertir. Mais cette femme a désobéi à la parole de Dieu. Tout est question de désobéissance. Nos premiers parents, Adam et Ève, avaient emprunté ce chemin de désobéissance et nous connaissons l'histoire. Cette femme, en regardant en arrière, semble regretter cette vie que mènent les habitants de Sodome. Même si elle ne pratiquait pas cette vie de débauche, on pourrait supposer que dans son cœur, elle était admirative d'une telle vie. Or, Jésus nous apprend que le mal n'est pas seulement caractérisé par ce qui est visible, mais le fait d'avoir de mauvaises pensées, c'est déjà péché. En Genèse 19, 30 à 38, nous apprenons que les deux filles de Lot, n'ayant plus de mari et dans la région où ils se sont réfugiés, dans une montagne, il n'y avait point d'homme pouvant les épouser, alors ces deux filles vont chacune à son tour abuser, oui, abuser de leur père. Elles vont violer leur père après l'avoir enivré. En faisant cela, ces deux dames s'attirent la malédiction, comme il est écrit dans Habacuc 2, 15. « Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. » Certains de nos contemporains n'ont rien inventé. On apprend ça et là que des jeunes filles sont droguées en boîte de nuit pour les mêmes raisons. Celles que nous venons de soulever, c'est-à-dire le viol. Remarquons qu'une telle attitude de la part des filles de Lot trouve ses racines dans le fait que ces filles ont été en contact avec les gens de mauvaise vie à Sodome. La vie de Sodome a impacté sur des filles de Lot. Aussi, face à une situation où leur père n'aura plus de descendance, elles préfèrent céder à la compromission. Nous aussi, comme ces deux filles, il nous arrive de faire des compromissions lorsque nous sommes confrontés à une ou des difficultés, au lieu de faire confiance à Dieu. Sous prétexte que l'on n'a pas de travail, on peut se permettre de voler. Sous prétexte que l'on n'a pas de femme, on peut se permettre d'aller avec n'importe qui. Sous prétexte que l'on n'a pas de mari, on peut se permettre de vivre comme l'on veut. Sous prétexte que l'on n'a pas de papier, on peut se permettre de travailler avec les papiers d'autres personnes. Et comme ça, on peut rallonger la liste. Ce ne sont que des prétextes et non des raisons valables aux yeux de Dieu. En même temps, lorsque je dis cela, je suis conscient de la pression que cela peut exercer sur quelqu'un qui vivrait ces situations soulignées. Mais que Dieu, le Père de notre Seigneur, nous aide dans de tels moments afin de lui rester fidèle. Et lui, le maître des temps et des circonstances, trouvera le moment opportun pour nous sortir de la situation, comme lui-même avait évité qu'à Sodome, les filles de Lot se prostituent. Septième élément de la ruine, de ces deux unions incestueuses naîtra deux enfants, Moab et Ben-Ami. Vous pouvez imaginer le traumatisme que cela a pu être pour ces deux enfants, de savoir qu'ils avaient le même père que leur mère. Les descendants de Moab sont les Moabites et ceux de Ben-Ami sont les Ammonites. Et nous savons ce que fut la destinée de ces deux peuples issus de Lot. Ils ont marché loin de la face de Dieu. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, les Ammonites seront comme Gomorre, leur pays deviendra un lieu couvert d'orties, une mine de sel et une terre dévastée à perpétuité. Sophonie, chapitre 2, verset 9. La boucle est bouclée. C'est le cercle vicieux. Dieu ramène les descendants de Lot à la réalité de Gomorre et de Sodome. Dieu identifie les deux descendants de Lot à Sodome et à Gomorre. Ces deux villes qui ont été de beaucoup dans la ruine de Lot. Oui, pour Dieu, les Moabites, tout comme les Ammonites, sont semblables à Sodome et à Gomorre. Comme quoi la décision, le choix d'une seule personne peut avoir des répercussions sur l'ensemble de sa famille et de sa descendance. Même si, comme nous l'avons vu, Lot semble vivre toujours dans la crainte de Dieu, il est loin de s'imaginer le désastre que son choix causera sur sa famille. Avant toute prise de décision, soumettons nos choix au Seigneur, comme nous le recommande sa parole. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Contrairement à Lot, Abraham, pour la décision, il se fie à l'Éternel. Le fait de ne pas choisir avant son neveu était certainement une manière pour lui de laisser le Seigneur faire ce choix pour les siens et pour lui. Les retombées n'en seront que grandes et bénéfiques pour lui. La réussite sera de son côté, chronique d'une réussite annoncée. Abraham obéit à l'ordre de Dieu, celui de quitter les membres de sa famille. Abraham est fidèle dans sa communion avec Dieu, dans sa communication avec Dieu. Genèse 13, 4. La Bible nous apprend qu'Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Donc, Abraham est justifié par la foi. Nous aussi, nous sommes justifiés par la foi, nous apprend l'apôtre Paul. En Genèse 15, verset 15, l'Éternel promet une vieillesse heureuse à Abraham. Cela est réconfortant pour tout un chacun. Le bonheur peut commencer ici-bas, avant d'atteindre son comble lors du retour de notre Seigneur. Abraham se soumet à l'ordonnance divine relative à la circoncision de tous les gens de sexe masculin vivant sous son aile. Abraham est un intercesseur. Genèse 18, 20 à 33. Oui, aujourd'hui aussi, Dieu cherche des intercesseurs parmi nous. Dans leur vieillesse et contre toute attente, Abraham et Sarah reçoivent de Dieu le fils de la promesse, Isaac. Quelle que soit l'épreuve que nous pouvons connaître, ne perdons pas confiance en Dieu, car tout est du domaine du possible avec notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Force est de constater que la destinée n'est pas la même pour Lot et pour Abraham. Le premier engendre des enfants issus de l'inceste, tandis que le second donne naissance au fils de la promesse. Sous la demande de Dieu, Abraham accepte de sacrifier son fils, mais Dieu intervient avant que le sacrifice soit réalisé. En cela, Dieu a permis de mettre en évidence la foi, la confiance qu'avait Abraham en lui. Jusqu'où peut aller ma foi en Jésus ? Y a-t-il des choses qui peuvent limiter cette foi ? Posons-nous ces questions. Dieu fait une triple promesse à Abraham. L'Éternel promet un pays à Abraham, malgré le fait que ce pays dit Canaan soit déjà habité par un autre peuple. Oui, ça sera un pays où coule le lait et le miel. Pendant qu'il est promis aux descendants de Lot un pays rempli d'orties, l'ortie étant une plante recouverte de poils piquants. Ces poils au contact de la peau provoquent des irritations. Cette plante est considérée dans la littérature biblique comme étant symbole de la malédiction. Je vous renvoie à Ésaïe 55, verset 13, Osée 9, verset 6. Dieu promet une nation à Abraham. D'ailleurs, Abraham signifie père d'une multitude. Il va faire d'Abraham le père d'une nombreuse descendance. Nous savons que le peuple d'Israël est la descendance d'Abraham. Et nous qui croyons en Dieu, le père de Jésus, nous sommes donc les véritables descendants d'Abraham. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et par conséquent aussi ses héritiers, comme Dieu l'a promis. Abraham et sa descendance seront une bénédiction pour les nations. Vous êtes une bénédiction pour les nations. La décision d'Abraham d'être obéissant à Dieu sera non seulement source de bénédiction pour lui, mais également pour sa descendance. N'oublions pas que c'est de la lignée d'Abraham que viendra le roi des rois, j'ai nommé Jésus-Christ. Et tous ceux qui fondent leur foi en lui sont les véritables descendants d'Abraham. Même si nous avons souligné la destinée catastrophique de Lot, de la descendance de Lot, nous ne pouvons nous empêcher de souligner cet amour de notre Dieu. Force est de constater que nous avons un Dieu qui est amour. Une descendante de Lot, Ruth, la Moabite, intégrera le bon côté grâce à sa foi en Dieu. Ainsi, elle sera l'une des ancêtres du Christ. C'est dire qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. En Jésus, tout peut être corrigé. Quel qu'était le passé de chacun, même encore aujourd'hui, si notre présent est loin d'être à la gloire de Dieu, il donne encore la possibilité de faire le bon choix, celui de placer toute notre confiance en Jésus-Christ et de marcher selon sa volonté. Il nous faut conclure. Le choix de Lot l'a conduit dans le vice, le mettant ainsi dans le piège du cercle vicieux, tandis que le choix d'Abraham l'a emmené dans la vertu, le stabilisant dès lors dans le cercle vertueux. Ainsi, Abraham a semé de bonnes pensées qui lui ont permis de récolter de bons actes, grâce auxquels il a récolté de bonnes habitudes qui lui ont conduit à avoir un bon caractère qui lui a permis de récolter une destinée. De la pensée à la destinée en passant par l'habitude et le caractère. Que choisissons-nous entre ce qui compte et ce qui ne compte pas? Que choisissons-nous entre ce qui dure et ce qui ne dure pas? Que choisissons-nous entre ce qui est éternel et ce qui ne l'est pas? Que choisissons-nous entre la bénédiction et la malédiction? Ce matin, la parole de Dieu nous invite à choisir la bénédiction, sachant que Dieu s'engage vis-à-vis de nous de façon éternelle. Nous également, engageons-nous vis-à-vis de lui de manière éternelle. Dans tous les cas, c'est pour notre intérêt. Il y a des choses qui durent et des choses qui ne comptent pas. À l'inverse, il y en a de celles qui durent et de celles qui ne comptent pas. Qui ne comptent, qui ne durent et de celles qui ne comptent pas. Ma prière ce matin est que tout ce qui nous empêche d'œuvrer pour notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'éloigner de nous et que toutes nos actions contribuent à l'amélioration de notre relation éternelle avec Dieu. Bref, que Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous donne d'investir dans les choses éternelles. Amen.